Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Franck Leboeuf, pour la pièce Ma belle-mère et moi, 9 mois après, à la Comédie Comartin de Paris.
Alors j'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne semaine. On se retrouve comme tous les samedis pendant une heure avec... Alors moi je suis très content de vous accueillir, Franck Leboeuf.
Bonjour, et moi aussi ça fait grand plaisir.
On avait fait une émission ensemble, je me souviens à une certaine époque, d'interview déjà.
Oui.
Vous étiez accompagné.
c'est plus la même personne.
Oui, je sais. Moi, je le disais pas.
C'est gentil.
Vous étiez accompagné. Bon, voilà. Alors, on va parler de vous. Et moi, je trouve quand même qu'il y a peu de personnes qui, en France, réussissent à avoir plusieurs vies. Et vous en faites partie. Et on va justement savoir comment on peut faire pour avoir plusieurs vies et les réussir.
Ouais.
Et c'est votre cas. Ma belle-mère et moi, on va en parler évidemment. C'est votre vie d'acteur à la Comédie Comartin. Mais il y a un process dans cette émission. Là, vous avez une tablette devant vous. Ouais. En slidant de droite à gauche, on trouve des mots. Et avec ces mots, je dois faire des questions. Et surtout, vous devez y apporter des réponses.
D'accord.
Le premier, c'est plomberie.
Oui.
Et pourquoi il y a plomberie déjà ?
Certainement, mon papa était plombier chauffagiste et mon papa est né à Reims et descendu avec ma maman quand ils avaient 21 et 20 ans dans le sud de la France, à Saint-Cyr-sur-Mer. Et puis il a commencé son boulot de plombier là-bas, faisant des retours à Marseille. Voilà.
Ça apporte quoi d'avoir un papa plombier artisan plombier, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr du lendemain.
Exactement. C'était quelqu'un qui se levait à 6h30 le matin, qui rentrait le soir à 19h, qui a bossé comme un malade. Qui a vraiment réussi sa carrière parce que il a fini pratiquement à un poste alors qu'il était patron d'entreprise, mais il avait un niveau ingénieur et il a même commencé les panneaux solaires par exemple pour le chauffage, et puis après il est passé à du chauffage par le sol, enfin voilà, tout ce qui a amélioré le système de chauffage, la climatisation. Il s'est mis donc de plombier, il est monté vraiment très très haut à tous les échelons de ce qu'il voulait faire. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a arrêté de travailler à 54-55 ans parce qu'il était fatigué, qui voulait se reposer, et 2 ans après l'arrêt de sa carrière, cancer, pour décéder à 60 ans d'un cancer. Et c'est toujours une tristesse très profonde quand je parle de mon père, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, a bossé et puis n'a pas eu le temps de vivre.
Il vous a connu footballeur.
Il m'a connu footballeur, et ça a été une grande réussite pour lui, parce que c'était en fait une vie par procuration. Il aurait voulu être footballeur, il a joué un petit peu au stade de Reims en jeune, et il s'entraînait avec les pros à l'époque de Copa, Fontaine, tout ça, la grande équipe de 58. Et puis après, il a été prêté, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que quand j'ai été champion du monde, de voir mon père avec sur ses genoux mon fils, ça a été pour moi un grand, grand moment. Et j'étais content. Il a même fait rémission complète de son cancer quand il a un mois après la Coupe du Monde. Et après ça a redémarré. Malheureusement, il est décédé en 2004. Ouais, donc j'ai eu mon père à côté de moi souvent. On n'a pas souvent été d'accord. On s'est même un peu fâché parce que un jour j'avais refusé de signer au stade de Reims. Mais il s'est beaucoup occupé de ma carrière, et pour le meilleur et pour le pire, on va dire.
Alors, on en parlera probablement dans l'émission, mais c'est vrai que 2004, c'est une année importante parce qu'il y a la disparition de votre papa. Parce qu'il y a la séparation, si je peux en parler.
Oui, il y a eu séparation après une vingtaine d'années de mariage.
Voilà.
Et puis l'arrêt de ma carrière en 2005, donc ça fait beaucoup de choses en quelques mois. Et...
On est en 2017, et il me semble, à vous entendre, à vous voir, que vous êtes un homme épanoui,
oui,
et un homme heureux.
Oui, c'est vrai.
On arrive à se dépasser.
Oui, oui, il y a des moments difficiles, des moments dépressifs, et puis après on remonte la pente, et puis il y a des choses qui arrivent, une nouvelle vie, donc le théâtre, le cinéma, la vie à Los Angeles, l'amour qui revient en 2010, un mariage en 2013, et puis voilà, une position de comédien qui s'affirme avec 700 fois sur scène, et puis un travail aussi à la radio, à la télévision, donc c'est cool. Non, je suis très heureux, j'ai des journées bien remplies, et c'est la première fois que je peux prévoir mes vacances. Ça fait 2-3 ans que je prévois mes vacances au mois de juillet avec mon épouse, et l'impression de mériter ces vacances là quand on est joueur de foot. Bon, on a l'impression qu'on est tout le temps en vacances, même si on travaille dur, c'est quand même pas la vie de tout le monde. Et là, je me lève le matin, je vais bosser, le soir je suis crevé, je vais me coucher.
Et c'est presque un hommage à votre père, ce que vous dites. C'est-à-dire, je me lève, je mérite ce que je fais,
ouais,
et je bosse. Et pour vous avoir écouté dans d'autres émissions, c'est ce qui ce que je ressens de vous, genre, je dois mériter ce que j'ai. Alors que footballeur, j'ai un peu la sensation, vous me dites si je me trompe, que vous n'étiez pas à votre place. Vous étiez un bon joueur, mais pas à votre place. Comme si vous étiez un usurpateur.
On m'a souvent fait passer pour l'intrus, même la finale de la Coupe du Monde, donc je ne devais pas y être. Donc ça a bien sûr développé chez moi un sentiment de défense par rapport à une légitimité que je pense mériter. Et puis, c'est vrai que par rapport à mon père, mais par rapport aux gens, quand on fait un métier où on n'a pas besoin de se lever à 7 heures, où on travaille 2 heures par jour, où on voyage, où on est très bien payé, il y a un sentiment de pas appartenir à un monde qui rassure. Voilà, ouais. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de travailler, en 2005, j'ai arrêté ma carrière, je prenais des cours, mais je me levais le matin, je faisais rien, après j'allais à mes cours, après j'allais à la musculation, j'avais l'impression d'être en dehors du système et ne pas appartenir à ce système me donnait un sentiment de culpabilité.
Vous avez choisi dans l'émission qui vous appartient maintenant, Goldman, Tourne les violons, ça a une signification pour vous ?
Oui, enfin le titre, oui, Tourne les violons, mais enfin, c'est j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, ça représente bien sûr aussi une partie de ma jeunesse, enfin, ou en tout cas de mon adolescence. Et puis, je me rappelle d'une pochette DVD où il remercie les journalistes qui l'avaient critiqué.
Et oui, c'était même une de Libé.
Ouais, et marqué merci quand même d'être venu me voir. Ouais. Et je trouvais ça super intelligent et j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne qui n'est pas là pour s'exhiber, mais qui est là parce qu'il aime faire ce qu'il a fait. Malheureusement, j'espère qu'un jour il fera un concert parce que j'aimerais aller le voir et je pense qu'il ne le fera pas, donc je suis un peu déçu.
Pour l'avoir côtoyé là récemment, il n'en a pas très envie en tout cas.
Et
il s'est retiré des Enfoirés déjà il y a maintenant un an. Et il pense que tourner les violons, c'est à lui maintenant de se mettre un petit peu à l'écart. On écoute Jean-Jacques Goldman.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur MFM Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
C'est Franck Leboeuf qui est votre invité. Alors, un autre mot,
allez,
à moi de faire
donc
la question, le vestiaire. C'est quoi le vestiaire ?
Alors, le vestiaire, c'est une émission sur SFR Sport 1.
Ah non, ça n'a rien à voir avec le foot, alors ?
Enfin, si, ça a à voir avec le foot. Enfin, on peut parler du vestiaire, du foot, mais voilà, je fais une émission sur SFR Sport 1 3 fois dans la ouais, semaine, où en fait, nous n'avons pas de présentateur, ou en tout cas, on a une voix, Sarah, qui est une qui nous fait ça en off, et nous sommes livrés à nous-mêmes, avec des oreillettes, bien sûr, et on parle de la vie, du vestiaire, de nos anecdotes. Ouais. Voilà, le lundi, je le fais notamment avec Emmanuel Petit et Christophe Dugarry. Or, ça amène une certaine critique. On voit le quotidien sur TMC avec Yann Barthès qui se moque gentiment de nous, parce que, bien sûr, c'est un vocabulaire qui est peu châtié, qui est vraiment un vocabulaire entre potes, mais c'est ce que les gens veulent voir, c'est ce qu'ils aiment, c'est qu'on raconte des histoires, que voilà, ça déborde un petit peu, et on aurait un vocabulaire d'apostrophe de Bernard Pivot, tout le monde s'embêterait. Donc voilà, c'est ce que les gens veulent, et on est capable de faire sujet, verbe, complément, on rassure tout le monde, et on n'est pas obligé de dire des grossièretés, mais voilà, ça fait partie de cette chose-là. Voilà, c'est une quotidienne, je le fais pas tous les jours, je le fais 3 fois dans la semaine. Je trouve que c'est beaucoup. Je pense que c'est pas vraiment une quotidienne. Je pense que ça devrait être une bi-hebdomadaire et j'en ai déjà parlé au patron parce que, en fait, on s'essouffle à un moment donné. Les anecdotes, on en a des milliers, mais à un moment donné, on se répète un petit peu.
Autre mot.
Ah,
Zidane.
Bah, Zizou, c'est, déjà le joueur, la personne, c'est quelqu'un que bien sûr, comme tous les Français, j'admire. Ensuite, sa reconversion, qui pour moi a été une vraie surprise au départ, j'y croyais pas.
Ah ouais ?
Non, parce que déjà, il l'avait jamais évoqué. Ça semblait évident pour quelqu'un comme Didier Deschamps ou même Laurent Blanc, qui étaient des meneurs naturels. Zizou, c'était un meneur technique. Il a porté ça, mais il est quelqu'un plutôt de timide, qui n'avait pas la parole facile. Et vraiment, j'étais vraiment interrogatif par rapport à sa réussite. Et puis, je l'ai vu 2-3 ans après dans un reportage où il s'occupait encore de la réserve et des jeunes du Real Madrid. Et là, j'ai vu quelqu'un transformé. J'ai vu vraiment un entraîneur, même un père pour les joueurs. Il parlait avec les jeunes et psychologie parfaite. Et là, j'ai commencé à y croire. Et voilà, on voit son parcours avec le Real Madrid.
Je vous la pose autrement la question. Qu'est-ce que Zizou a raté ?
Oh là, rien.
Ça veut dire qu'il a tout réussi. Ça veut dire qu'on peut tout réussir.
La vie privée, je pense que ça fonctionne bien. Des enfants qui se tiennent bien, qui sont polis. C'est quelqu'un qui est pas mal entouré. Non, franchement, je vois pas de
Et vous avez fait quelquefois des confidences, vous vous êtes parlé. Est-ce que vous avez été, si ce n'est ami, est-ce que vous avez été à un moment donné copain de vestiaire?
Non, on n'a jamais été vraiment proche. Un jour, je l'ai vu un jour me regarder dans le bus, je parlais de quelque chose. Et je pense qu'on nous sommes à des années-lumière l'un de l'autre, on a des mentalités différentes. Et je l'ai regardé et je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, rien. J'ai fait mais de toute façon, je pense qu'on aura du mal à se comprendre, on vit pas la même chose. Voilà, lui il est foot et moi mon intérêt est plutôt de découvrir d'autres choses. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir du respect l'un pour l'autre et nous avons fait on fait un repas chaque année avec France 98. Et là, si cette année il a pas pu venir, l'année d'avant il était là. Et il s'intéressait savoir comment je faisais au théâtre pour apprendre les lignes, tout ça. Il trouvait ça extraordinaire.
Alors, comment vous faites pour apprendre les lignes?
Alors, j'ai une petite technique. J'ai un dictaphone. En fait, parce qu'en plus de nos lignes, il faut apprendre les textes des autres parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'intervenir, s'il faut couper la phrase ou pas. Donc, moi, j'enregistre les voix que je fais moi-même de mes partenaires et je laisse des blancs sur mes phrases. Et là, je mets mes phrases.
Ah, d'accord.
Et au fur et à mesure, j'entends la musique des autres et j'entends la mienne. Alors, je travaille pas le rythme, je travaille pas même les intentions. Je travaille juste le texte.
Alors, vos partenaires, c'est Véronique Demonge, c'est Nicolas Vitiello, c'est Franck Leboeuf qui a un rôle énorme parce que
ça m'est bien.
Non, parce qu'en même temps, au théâtre, on n'est pas soi-même, donc on est son propre partenaire. Vous n'êtes pas ce que vous êtes dans la vie, vous êtes dans un rôle.
Oui, alors je vais rajouter Christine Lemler qui joue mon épouse. Oui. Mais oui, je suis Julien, présentateur télé. Donc il y a, je pense qu'il faut être. Il faut pas.
C'est-à-dire que vous êtes un petit peu le rôle.
Il faut pas paraître. Il faut être. Oui, je suis. Bien sûr qu'il y a une part de. Mais chaque acteur doit se servir. Moi, j'ai appris. C'est la méthode Strasberg, on va y arriver. Stanislavski, voilà, c'est ça, et qui en fait te permet d'aller chercher tes expériences personnelles pour les retranscrire en émotion. Donc une tristesse, une joie, voilà, représenter un souvenir pour que ça vienne rapidement. Et l'important c'est de ne pas surjouer, donc d'être sincère. Donc je suis bien sûr Julien, mais je me sers de mes atouts personnels et de ma vie privée pour retranscrire qui je suis. Quand je pleure, je pleure. Quand je suis en colère, c'est Franck qui est en colère, même si je joue un autre rôle. C'est ça l'important, c'est avoir la possibilité, surtout le cran de se dévoiler, parce qu'on dévoile un peu de soi, bien sûr.
Alors, on va écouter Soprano, et après, vous nous direz l'histoire de Ma belle-mère et moi, quand même.
Avec grand plaisir.
C'est une suite.
C'est un nouvel opus qui se sert, bien sûr, du numéro 1. Ouais, bien
d'accord.
Sûr.
Alors, Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada?
Non, le monde qui nous entoure est assez effrayant et je pense que faut bien écouter les phrases, en plus du rythme que j'aime beaucoup de Soprano parce qu'il mélange beaucoup de sons, mais je trouve que ces phrases sont très intéressantes, ça dit vraiment ce qu'est notre monde et je pense que oui, il y a une partie diabolique dans chacun d'entre nous. Et je pense qu'on est en train de la ressortir à puissance 10 et ça c'est assez effrayant.
Vous avez de la chance d'écouter MFM Radio, ça vous permet donc de découvrir un peu plus Franck Leboeuf.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Franck Leboeuf pour la pièce Ma belle-mère et moi, 9 mois après, à la Comédie Comartin de Paris.
Vous l'avez écrite cette pièce avec
Je l'ai coécrite avec Nicolas Vitiello en étant aidé bien sûr par Bruno Druard qui a écrit la Bible, qui avait écrit le numéro 1. Bien sûr.
Alors, c'est quoi l'histoire?
Alors, le pitch, c'est toujours difficile à expliquer, mais enfin, voilà, je suis présentateur télé, j'ai une belle-mère qui a toujours besoin d'argent, qui est une cougar, voilà, mon homme de maison, joué par Nicolas Vitiello, est en fait à hériter de son oncle, mais pour qu'il touche l'héritage, il faut qu'il soit marié, qu'il ait un enfant d'une femme, et qu'il ne divorce pas. Donc, on va s'arranger avec la belle-mère, et donc, ça, c'était le numéro 1. Non, on le répète dans le 2, et en fait, la belle-mère arrive enceinte. Mais en même temps, moi, je suis marié avec quelqu'un, et j'ai ma femme qui attend un bébé très prochainement. Mais la ménagère de moins de 50 ans ne serait pas contente de savoir que je n'appartiens plus au public et à elle, mais qu'à une seule femme. Et donc, mes audiences risqueraient de tomber. La belle-mère va vendre l'info à des magazines. Et mon homme de maison va essayer de trouver un subterfuge extraordinaire pour faire croire qu'en fait l'enfant n'est pas de moi et Zoé n'est pas avec moi, ma femme, mais avec lui. Et comme il est homosexuel, ça va poser problème et il va bien sûr se trahir.
Pas d'avantage, on rit beaucoup.
Ouais, c'est le principe d'une comédie de boulevard, c'est qu'à peu près tous les 5-10 secondes, il faut que le public rigole. Après, chacun y voit son humour.
Mais... Ça, vous l'avez appris en cours de théâtre ?
On l'apprend en cours de théâtre, mais en fait, on apprend beaucoup sur scène. Moi, ça fait plus de 700, c'est à peu près 700 fois que je suis sur scène. Et en fait, il y a des vraies techniques. On utilise la psychologie humaine pour faire rire. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'une phrase, par exemple, coupée en deux, ne va pas faire rire, alors que si elle est lancée d'un trait, elle va faire rire. Et le positionnement, le moment de monter le son ou de baisser le rythme va faire une différence. Et c'est incroyable la précision que ça demande pour faire rire les gens.
Quand je disais au début de l'émission, Franck Leboeuf, plusieurs vies en une.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment l'impression, entre la dernière interview et celle-ci, que...
Ah oui, il y a eu du mouvement, oui.
Mais, c'est énorme.
Vous savez, Patrick, en plus, quand on est joueur de foot ou sportif, à un moment donné, on sait que ça va s'arrêter. Donc, il y a une obligation de faire autre chose. Et rester oisif toute sa vie, déjà, il faut avoir beaucoup d'argent. Et puis, en plus, il faut avoir beaucoup d'amis pour pouvoir s'occuper. Et moi, mes potes travaillent. Donc, au bout d'un an, je me suis vraiment embêté.
C'est parce que mes potes travaillent que je me suis mis au théâtre.
Non, ça, j'avais prévu. Mais entre-temps, quand même, j'avais pas beaucoup d'activité à part ces cours-là. Et oui, maintenant, c'est vrai que je travaille pour RMC, je travaille pour SFR. J'ai l'écriture de plusieurs choses. Donc là, on a fini Ma belle-mère et moi, on le joue. Mais moi, j'ai un film que j'écris. J'écris deux nouvelles pièces. Je travaille pour une chaîne américaine qui s'appelle ESPN. Donc, je bosse beaucoup.
Alors, comment avez-vous réagi quand au départ, il y a eu des sceptiques?
Bon, ça fait partie de... Bon, on a des personnages, Yannick Noah dans la chanson, on a eu Eric Cantona aussi, il a fallu une dizaine d'années pour que les gens assimilent le fait que vous soyez légitime pour faire autre chose. On sait qu'ouvrir plusieurs tiroirs en France, c'est compliqué, mais j'ai la patience avec moi, vraiment le fait de penser que je suis légitime parce que j'ai pris des cours et parce que je travaille et que je suis pas là pour me la raconter, je suis pas là en disant tiens je vais faire ça. Non, moi je voulais faire du théâtre avant de faire du foot. À 4 ans, je regardais au théâtre Ce Soir. Moi, Georges Belair, il est venu il y a 2 soirs m'applaudir au théâtre. Et moi, pour moi, quand j'ai rencontré Georges Belair, j'ai dit mais t'es mon Platini des planches, toi. Moi, quand j'étais gamin, t'étais mon idole, voilà. Comme Lamaillan, comme Micheline Dax, comme plein d'autres. Et puis. Je veux rassurer les Français, je suis pas le seul sportif qui est devenu acteur. Si on nomme Lino Ventura, André Pousse, donc Eric Cantona, Arnold Schwarzenegger, notamment, il y en a eu plein qui ont...
Ventura catcheur, Pousse lutteur.
Exactement.
Ouais, absolument.
Ouais, donc il y a des possibilités et on a le droit de faire, de changer de vie et surtout quand on le fait avec, je pense, humilité.
Et on a le droit de changer de mot également.
Allez, ça slide.
Saint-Cyr-sur-Mer. Vous y allez souvent?
Non, malheureusement, j'y vais plus parce que j'ai pas trop le temps. J'ai ma maman qui a déménagé. En fait, on était entre Saint-Cyr-sur-Mer et la Cadière d'Azur. Pour ceux qui habitent dans la région, ils connaissent. C'est là où on fait le bandol. C'est entre Toulon et Marseille. Et j'ai mon parc à mon nom. Alors, j'en rigole souvent parce que je dis c'est là où les mamies font leur petite promenade et les chiens font faire leur petit caca. Et voilà, mais ça va plus loin que ça. Mais j'aimais beaucoup Saint-Cyr quand j'étais gamin. C'est vraiment un village extraordinaire avec l'une des plus belles plages du sud de la France. Mais mon temps me permet plus d'y aller.
C'est quoi l'endroit où vous allez pour être tranquille aujourd'hui? Vous n'allez pas à Los Angeles. Vous avez bien un endroit en France où... Voilà, un petit peu pédard.
Alors, quand je veux un petit week-end, je pars souvent en Normandie avec mon épouse, ou dans les pays de la Loire. Voilà. Sinon, les vacances sont souvent aux Antilles, comme ça, parce que j'ai mon meilleur pote, mon frère et ma fille qui habitent à Los Angeles. Et donc, avec mon autre fille, moi, avec mon fils, qui lui habite à Paris, c'est ce qu'on va faire cet été.
On se retrouve aux Antilles. À mi-chemin, presque.
On se retrouve, voilà, aux Antilles. Ouais. Avec ma femme, on est allé à Antigua. Et puis, on va. Sans doute aller en Guadeloupe, ami Guadeloupéen. Bientôt, vous me verrez. Voilà.
Allez, un autre mot. Franck Leboeuf est votre invité sur MFM Radio.
Mon père et moi.
Alors, on a parlé de votre père. Je voulais simplement savoir, quelle qualité avez-vous de lui? Vous disiez que vous ne vous étiez pas toujours forcément entendu, mais quelle qualité aujourd'hui? S'il était là, il vous écoute, il est en vous. Qu'est-ce qu'il aimerait de vous, là, aujourd'hui?
Mon opiniâtreté. Je pense que le fait de ne rien lâcher, c'est ce qui m'a inculqué. Il a fallu, alors ça a ses qualités et ses défauts, hein, c'est-à-dire que je suis très perfectionniste et je suis, je veux dire, très peu contenté de ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'essaie de me battre avec le bouddhisme pour essayer de vivre le présent, ce qui est important, et je suis plutôt dans le futur.
Les femmes ont eu beaucoup d'importance dans sa vie, il s'appelle Renaud, c'est vous qui avez choisi qu'on l'écoute avec Mistral gagnant. Mistral gagnant, c'est quand même une superbe chanson, on est d'accord.
Ouais, mais
c'est la chanson.
Alors, Renaud, c'est un poète, et c'est vrai que je reviens sur des chansons passées parce que il a bercé, bien sûr, encore une fois, mon adolescence. Et là, ouais, là, c'est de la vraie poésie, quoi. C'est une dédicace extraordinaire, et je trouve ça fantastique. Enfin, voilà.
Il a été récompensé aux Victoires de la musique dernièrement, et Mistral gagnant, pour moi, fait partie des 10 plus belles chansons qu'on ait jamais écrites.
D'accord.
Et interprétées par Renaud sur MFM Radio.
Midi 13h. Samedi Sabatier, l'interview sur MFM Radio.
C'est Franck Leboeuf qui est votre invité. Ma belle-mère et moi, 9 mois après, c'est à la Comédie Comartin. Vous jouez tous les jours ?
On joue du mardi au samedi à 20h et en plus on a le samedi après-midi à 17h.
Ouais. Dis donc, le samedi soir, vous devez être vanné, hein ?
Oui, assez. Surtout que j'ai pas de jour de repos, puisque encore une fois, j'ai la télé, la radio, et donc même le dimanche, je travaille en après-midi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je mérite vraiment mes vacances.
Un autre mot. Quand je serai vieux, vous serez vieux un jour.
Je l'espère. On m'a prédit une longue vieillesse, donc ça va. Écoutez, je suis en train de voir, et on en a parlé avec mon épouse, nous adorons les animaux, et on essaie de trouver, je pense, d'ici une année, une ferme. Qu'on voudrait un petit peu rebâtir, prendre le temps de la mettre à notre goût. Pas très loin de Paris, on va dire à 3/4 d'heure, 1 heure, pour pouvoir apprécier aussi une ville qui est absolument magnifique. J'ai beaucoup voyagé, je pense que Paris est la plus belle ville au monde. Mais aussi pouvoir s'éloigner et on récupérer, il y a une association qui récupère les ânes, donc on en prendrait 2, des chevaux qui seraient dédiés à l'abattoir, des cygnes, on veut une mare aussi, on va pour mettre les cygnes, les canards et tout ça, et puis des poules, plein de chiens, plein de chats, voilà. Parce que moi, quand j'étais petit, je voulais être véto, comme beaucoup de gamins, je pense. J'ai pas pu faire les études pour ça, et puis je pense que j'aurais pas eu le cran parce que le sang me glace un petit peu, c'est le cas de le dire, quand je l'en bois. Mais j'adore les animaux, et moi je dors avec mon chat, c'est extraordinaire parce que je le regarde pendant une demi-heure faire sa toilette, puis après déconner avec moi, me griffer, et puis après faire des ronrons, c'est très simple, c'est très sympa.
Quand vous serez vieux, Franck Leboeuf, vous serez un vieux bouddhiste?
Je suis pas extrémiste dans tout, c'est-à-dire que je ne supporte pas. C'est pas que je supporte pas, surtout dans le bouddhisme, ça fait pas de mal. Mais voilà, quand je vois, j'aime beaucoup Mathieu Ricard, qui est porte-parole français, on va dire, du bouddhisme. Moi, la toge, ça m'intéresse pas. Je me sers de la philosophie du bouddhisme pour essayer de bien vivre, d'essayer d'être heureux. C'est ce que je me dis tous les matins en me levant. Essayer d'être heureux, essayer d'embêter le moins de monde possible. Je pense que c'est une philosophie qui permettrait au monde d'être un peu plus en paix. Mais voilà, je fais mon lit, c'est une méditation. Quelquefois, je me mets devant une bougie aussi, où j'évacue toutes mes pensées. Quand je serai vieux, je serai plus à la télé, je serai plus à la radio. Je ferai sans doute d'autres choses, mais je sais pas ce que je ferai.
Vous aurez des cheveux.
Non, ça c'est un problème que j'ai réglé il y a à peu près 20 ans, même plus 21 ans, ça fait 20 ans que je me rase la tête. Et pour moi, et je pense que pour mes amis et ma femme, ce serait inconcevable de me voir avec des cheveux.
Attendez-moi, ça m'intéresse, je vous ai dit ça comme une anecdote, mais pourquoi vous êtes-vous rasé la tête?
En fait, parce que...
On l'a tous fait un jour ou l'autre. Alors ça dure 6-7 mois pour que ça repousse, c'est bien, mais on l'a tous fait. Mais après, pourquoi vous l'avez gardé comme ça, cette tête?
Alors en fait, j'ai voulu le faire en 93, je l'ai fait, et je me rappelle, après on avait un match Strasbourg-Saint-Etienne, mon père m'a vu, il n'a pas dormi de la nuit, il m'a appelé le lendemain, il me dit « Qu'est-ce que t'as fait? T'as une leucémie ou quoi ?» Et j'ai fait « Non, non, ça, je me suis juste rasé la tête. » Il me dit « T'arrêtes ces conneries, c'est pas possible. » C'est un moment où c'était pas vraiment la mode. Et puis, j'ai laissé repousser ce qui repoussait, parce que j'ai commencé à perdre mes cheveux à 21 ans, et donc on fait beaucoup plus âgé. Et puis, j'ai eu la chance de jouer avec quelqu'un qui s'appelait Gianluca Vialli, qui était le seul chauve rasé qui était italien, et qui en fin 96 me dit « Viens ici, toi, ça suffit avec ton combat contre les cheveux qui se perdent. » Et il m'a rasé la tête. Et en fait, Fabien se rase la tête, Barthez aussi. Ça devient une mode en France. Et on a la faiblesse de penser que c'est grâce à nous. Et on résout beaucoup de problèmes pour les chauves qui deviennent vraiment à la mode. Alors mon problème, c'est que mon frère est coiffeur et que je suis pas une bonne publicité pour lui.
Un autre mot.
La persévérance.
Ah, la persévérance, c'est un mot qui vous va comme un gant.
Ah ouais, comme une moufle même. Ouais.
Je vous la pose autrement parce que ça m'intéresse d'avoir votre réponse, parce que j'apprends beaucoup des interviewés. Qu'est-ce qui vous fait persévérer? Qu'est-ce qui vous fait continuer coûte que coûte?
Je me bats un petit peu contre ça, où je devrais accepter le fait de ne pas être, en tout cas de ne pas essayer d'être parfait dans ce que j'essaye de faire. Malheureusement, je pense qu'on en revient à mon père, c'est l'éducation qu'on m'a donnée, c'est-à-dire mon père, il me filait des livres, c'est-à-dire quand on veut, on peut. Genre, j'ai lu sur cet homme sur une chaise roulante, faire des marathons, faire le Mont Pharaon, tout ça. Donc j'ai lu ça, ça m'a marqué. Qu'on qu'on fasse de moi un petit peu ce qu'on voulait. Ça m'a posé des problèmes, j'étais en colère contre mon père quand il est mort parce que j'avais des choses à lui dire. Mais ça fait partie de moi maintenant, je peux pas le nier que quand j'essaie de faire quelque chose, ben j'essaie de le faire au maximum. C'est pour ça que cette pièce, je voulais la faire et que j'ai eu des petits problèmes parce qu'il y avait des gens qui se mêlaient un petit peu, qui voulaient les droits d'auteur par exemple. Alors je me suis dit, bon écoutez, ça va, je vais voir un avocat, je vais écrire, je vais tout faire moi-même et puis je vais me débrouiller comme ça et je vais l'assumer. Et ça a fonctionné. Je vois au cinéma des gens que je connaissais, qui étaient mes potes. Et parce que je suis devenu acteur, ben on fait comme si on me connaissait plus trop, parce que ça dérange. Donc, encore une fois, un jour, ça me prendra où je produirai un film, où je mettrai un réal moi-même et je jouerai dedans. Et puis, voilà, et je ferai parce que ça me fait plaisir. Pas pour prouver quoi que ce soit, c'est parce que ça me satisfait moi. Et j'essaie de créer ma famille, comme beaucoup créent leur famille au cinéma ou au théâtre. Et je vais me faire plaisir avec ces gens-là jusqu'à ce que j'en ai marre.
Je ne sais plus, vous avez combien d'enfants ?
J'ai deux enfants qui ont 26 et 25 ans, Jade et Hugo, et j'ai une belle fille, Jenae, qui a 15 ans.
Vous êtes fier d'eux ?
Ouais, je suis fier d'eux, je leur demande beaucoup. J'essaie de me calmer pour ne pas faire comme mon père, mais j'essaie de leur dire que la célébrité de leur père ou l'argent de leur père n'est pas leur célébrité ou leur argent. Et qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, pas parce que je veux les voir ramer, mais parce que je veux les voir fiers de ce qu'ils ont accompli. Voilà. Je pense qu'il y a du pain noir avant le pain blanc, et il faut qu'ils s'exercent à ça et à souffrir. C'est difficile parce qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et que bien sûr on a envie de les aider, bien sûr qu'on veut pas voir nos enfants dans la galère, mais il y a un minimum à apprendre pour pouvoir s'assumer.
Il est plus facile d'être le fils de quelqu'un de pauvre que de quelqu'un riche.
Il est plus facile d'être un père pauvre que d'un père riche, parce que les pères riches, on leur demande bien sûr de filer du pognon à leurs enfants, et même les amis des enfants disent « Attends, ça va, ton père il est blindé, il pourrait t'aider. » Alors que quand on est pauvre, les enfants ont l'impression qu'ils se battent, qu'ils ont envie d'aider leurs parents, qu'ils ont envie de se défoncer pour rendre... On voit les joueurs de foot qui se battent, puis après ils achètent une maison à leurs parents,
ils envie,
les
mettre.
Voilà, il y a quelque chose. Et en fait, on remercie presque ses parents de leur avoir filé une vie dure parce que ça nous a appris à être meilleurs. Quand on est père, voilà, et qu'on on est un peu plus aisé, c'est un peu compliqué. Je pense que la célébrité, le fait d'être le fils d'eux ou la fille d'eux n'aide pas les enfants. Ça, c'est clair. Je pense que c'est plus dur pour eux.
Vous avez choisi d'écouter Téléphone, New York avec toi, et on vous retrouve juste après.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Franck Leboeuf, pour la pièce Ma belle-mère et moi, 9 mois après, à la Comédie Comartin de Paris.
C'était Téléphone New York avec toi sur BFM Radio. Nous sommes la première radio sur la chanson française. Un autre mot, Franck Leboeuf, à moi de faire la question. Petit métier, avez-vous fait des petits métiers dans votre vie?
Oui, j'en ai fait deux. J'ai été une journée manœuvre.
Une journée?
Ouais, une journée, parce que j'ai voulu... Puisqu'on m'avait demandé de le faire, j'ai voulu finir ma journée, mais je savais au bout de 10 minutes que je n'allais pas continuer. En fait, je suis arrivé, j'étais au Hier Football Club, j'avais 18 ans, j'avais quitté le centre de formation de Toulon, et le patron, c'était le sponsor et président du club, avait une entreprise de chantier. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de faire chef de chantier. Et moi, en aucune façon, je voulais porter des aglos, et il m'a dit, mais il faut commencer comme ça. Donc il m'a filé le casque, les gants et les chaussures pour pas que je me plante des clous. Et puis il m'a dit, bah tu vois les aglos, c'est au deuxième étage. Et donc je l'ai fait. Et je suis allé voir à la fin de journée. Je dis voilà, merci, je pense que j'ai beaucoup appris en cette journée, mais c'est pas pour moi et je le ferai pas. Donc j'ai arrêté, j'ai quitté le Hier Football Club, je suis monté à Meaux. Et là aussi j'étais amateur, donc je travaillais la journée. Et j'ai rencontré un Italien, Monsieur Randazzo, qui m'a permis de... me découvrir aussi en tant que personne, parce que j'ai vendu des fringues de sport italiens dans les clubs. Donc j'allais démarcher et je me levais à 6h le matin. Et après le soir, à 21h, j'avais mes entraînements. Ça m'a appris à, encore une fois, par rapport au pain noir et au pain blanc dont je parlais, à accepter le fait c'est la vie, c'est une bagarre. Et que si on veut réussir, et ben il faut passer par des étapes qui vous apprennent à grandir aussi. À 20 ans, je pense que j'étais déjà très adulte.
Vous avez beaucoup d'amis?
Non, j'en ai un. C'est Fabrice, il est à Los Angeles, c'est un Canadien, né de parents français, et c'est mon frère. Et c'est amusant parce que quand on s'est vu, on est chauves tous les deux en plus, on nous prend pour des frères, parce qu'on est chauves, c'est facile, et mais on a la même façon de penser. Alors il est un peu plus dur que moi sur la vie, les choses comme ça, mais ça s'est fait naturellement, quoi. Et il est devenu mon témoin de mariage, mon confident, et c'est vraiment un pote. Après, j'ai des très bons potes, mais amis, c'est-à-dire qu'il y a un problème, je sais que je peux l'appeler. Et il est à 9h décalage, il m'appelle, je répondrai, j'ai une alarme spéciale s'il m'appelle. Voilà, c'est mon pote et je suis capable de partir à 9000 km pour régler son problème. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma famille, autant que mes frères en fait.
Amour, amitié, c'est pas la même chose, hein.
Ah non. Mais même, il y a amour et amour.
Mais c'est dangereux quand on devient ami de sa femme?
Je pense que ça... On peut pas être ami de sa femme parce qu'on peut pas être confident de sa femme. Il y a des choses qu'on peut pas dire à sa femme. Il y a des choses qu'on ressent et qu'on doit pas dire à sa femme parce que y a un coup de moins bien et que je pense que dans le couple, c'est un effort quotidien pour rester avec quelqu'un, qu'il faut faire preuve de séduction, travailler sur le couple tous les jours, parce que sinon, on tombe dans cette routine que tout le monde connaît. On va tous y aller. Mais comment gérer cette routine, c'est un travail quotidien. Et moi, raconter à ma femme certaines choses, non, j'ai pas envie. Donc j'ai mon meilleur pote, j'ai mes frères aussi, et là je peux en parler. Mais ma femme, non, ma femme, je suis son homme, je suis quelqu'un qui doit la séduire parce qu'il y a une relation autre. Par rapport à ma fille, par exemple, quand j'ai quitté sa mère et que je rencontrais des filles qui avaient 24, 25 ans, que ma fille avait 18 ans, je parlais d'amour, elle comprenait pas, elle pensait que que ces filles prenaient la place de ma fille. Je lui dis, mais personne dans mon cœur prendra ta place. Il y a amour
tu
et
es
amour.
Ma fille,
tu es ma fille et je t'aime. Mais il y a une façon d'aimer sa fille, comme bien sûr, une façon d'aimer ses chéris.
Une autre observation à propos d'un autre mot. J'ai souvent pleuré. Vous avez souvent pleuré?
Non, j'ai pas souvent pleuré. Il y a un soubresaut par moment qui peut monter en regardant un film, par exemple. En fait, quand mon père est décédé, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré deux fois. C'est quand un de ses potes est venu et a mis la main sur ce cercueil de mon père et s'est mis à pleurer. Et là, j'ai dit, en fait, c'est ça la mort. C'est que, en fait, on perd ses potes. Et c'est les proches qui souffrent. Et puis après, je suis allé dans l'appartement de mon père et j'ai retrouvé le maillot de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde 98 que je lui avais donné. Et j'avais tout rangé. Et il y avait surtout sa brosse à dents quand je suis allé dans sa salle de bain, sa brosse à dents, tout ça, comme quelqu'un qui allait revenir en fait quand il est parti à l'hôpital. Et là, j'ai craqué. Je pouvais pas m'arrêter pendant 4 heures. Je pense que c'est une projection de ce qui va nous arriver. Mais voilà, c'est dur. Mais sinon, je pleure pas. Je peux pas pleurer de quelque chose qui est heureux. C'est-à-dire, à la Coupe du Monde de 98, j'ai pas pleuré. J'ai vu que certains joueurs, comme Christophe Dugarry, partir en larmes. Moi, non. Quand je suis heureux et je me vois pas du tout pleurer. Mais j'ai souffert. Comme je le disais, en 2004-2005, quand on arrête son boulot, qu'on perd son père, qu'on perd son mariage, par moment, c'est dur, quoi. C'est, à un moment donné, vous avez envie de... Vous n'avez plus envie de rien, en fait. Et ça, c'est dur. Mais j'apprends à être humain, parce que mon père n'a pas voulu que je sois humain, il a voulu que je sois une machine. Et maintenant, je regarde un film et je peux pleurer. J'ai regardé le film dans lequel je jouais, La merveilleuse histoire du temps, qui a été nommé aux Oscars. Et c'est c'est un biopic sur Stephen Hawking, l'astrophysicien. Et à la fin du film, je me rappelle, j'étais dans l'avion et j'ai pleuré. Parce que c'est un film extraordinaire et que la vie de cet homme est palpitante et j'en ai pleuré à la fin.
Dernière question, quand vous vous regardez dans un miroir, vous dites quoi?
Les gens disent que je suis comme le bon vin et je vieillis pas trop mal, donc ça va.
Vous vous plaisez?
Non, je me trouve plein de défauts, bien sûr.
Vous êtes beau mec, enfin, vous êtes...
Je m'en sors pas trop mal.
À 49 ans.
Oui, non, mais on en parlait hier avec ma femme, on n'aime pas trop en fait les gens qui se savent beaux. Ça amène une certaine personnalité qui nous dérange en fait. Oui, je suis beau. Non, mais je sais que je peux faire. Voilà. Ça me dérange. Je pense que
Vous avez jamais joué de votre physique?
Ah non, jamais. Non. Certaines copines me disaient.
Pour draguer les filles, vous vous êtes pas servi de votre.
Non, j'ai entendu certaines filles qui disaient que j'avais un sourire à la con. En fait, c'est un sourire à faire tomber les filles, quoi. Enfin voilà. Mais ouais. Bon, parce que j'ai quelques Mais j'ai pas, non, je devais avoir quelque chose, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Bon, enfin, je suis pas non plus, un womanizer, comme disaient les Américains. Mais, non, je suis plutôt quelqu'un de tranquille et, je me trouve pas mal, on va dire. Et puis, ça va comme ça, j'ai vraiment pas à me plaindre, je fais ce qu'il faut pour me maintenir parce que je trouve que mon corps m'a tellement donné que je peux pas le trahir en laissant.
Toujours du sport, toujours de l'entraînement.
Ouais, 2-3 fois par semaine dans une salle, ouais, et, je fais attention à ce que je mange à peu près, mais j'essaie de bien vivre aussi.
Ma belle-mère et moi, 9 mois après, c'était la Comédie Comartin. Vous savez, je suis très content de vous avoir reçu.
Mais moi, ça me fait un grand plaisir de vous revoir aussi.
Vous êtes vraiment un type super, quoi. Vous êtes,
c'est gentil.
Non, parce que c'est tellement difficile de changer de métier, de se débrouiller, de tenter des aventures dans ce pays où il n'y a que des étiquettes, que des tiroirs, etc. Et d'y réussir. Et votre principal atout, c'est que le public vous suit. C'est le principal atout. Ça vaut toutes les critiques du monde quand le public vient vous voir et vous applaudit. Vous aimez les applaudissements à la fin ?
J'adore. J'aime pas qu'on m'applaudisse avant. En fait, ça, c'est mon côté sportif.
C'est pour
parce
ça que je vous ai dit à la fin.
Ouais. Et alors, j'aime pas trop ça parce que déjà, on rentre, on a des choses à dire et c'est vrai qu'on s'applaudit. Alors, on le prend, bien sûr, parce que c'est super adorable de la part des spectateurs. Mais c'est vrai que la fin, ouais, me fait plaisir. Et puis, quand on sent vraiment l'énergie, l'enthousiasme des spectateurs, ça flatte l'ego, bien sûr. C'est prenant et c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est que c'est une réaction immédiate et c'est vraiment, c'est le pied, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci, Patrick.
On va pas se quitter comme ça.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio.